Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, avez-vous déjà rencontré des gens passionnés? Le nom de l'objet aimé frappe-t-il leur oreille? Immédiatement, ils convoquent dans leur esprit une avalanche d'idées, de souvenirs, suscitent dans leur cœur un enthousiasme débordant, source d'action féconde. Chacun peut faire cette expérience dès qu'il entend parler de ce qui lui tient à cœur. C'est normal. C'est l'office des mots de réveiller notre esprit, d'appeler notre connaissance qui s'épanouit en action. Et ce nom de Jésus, qu'évoque-t-il en nous? Ne devrait-il pas appeler en nous une immense connaissance et un immense amour? Connaissons-nous vraiment Jésus? Qui est-il pour nous? Un simple mot? Une idée? Ou vraiment une personne, un ami au centre de notre vie vie et de notre agir? Aujourd'hui, l'Église propose ce doux nom à notre dévotion. Pendant quelques instants, cherchons donc à en percevoir la richesse, puis nous examinerons comment cette connaissance peut se traduire dans notre vie. Le nom de Jésus, vous le savez, signifie « Dieu sauve ». Vous l'appellerez du nom de Jésus, disait l'ange Gabriel à Saint Joseph. Vous l'appellerez du nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce qu'un sauveur, chers fidèles? Imaginez-vous un instant être seul, à nager au milieu des flots, loin du rivage. Le temps si clair à votre départ s'est soudain assombri. Vos forces diminuent. Vous êtes à bout de souffle. L'évidence s'impose. Vos forces ne suffiront pas. Déjà, vos muscles se raidissent et vous attendez avec effroi le moment fatal de votre épuisement. Que vienne un sauveur, sinon c'est la mort. Jésus est le sauveur. De qui? De son peuple. Ce peuple sauvé, c'est nous. Chacun de nous bénéficie de ce salut. Il est notre sauveur. Et de quoi nous sauve-t-il? Il nous sauve de la mort éternelle, de cet étang de feu prêt à nous engloutir. Il nous garantit aussi de tous ces démons de l'enfer rôdant sans cesse, cherchant à nous précipiter dans l'abîme. Il enlève enfin nos péchés, carcans de nos âmes, et nous réconcilie avec Dieu. Voilà ce qu'opère pour nous cet enfant de la crèche. Oui, son nom est Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, proclamait avec courage Saint Pierre, le premier pape. Jésus est donc le sauveur du monde et le seul. Quel scandale aujourd'hui! Ceux qui devraient prêcher le salut par le seul Jésus préfèrent l'écuménisme. Ils laissent ainsi les hommes se noyer dans le péché, être dévorés par les vices, étouffés par les démons, sans leur proposer le seul remède, le nom du seul Sauveur, le nom de Jésus. Monseigneur Lefebvre appelait la dévotion au Saint-Nom de Jésus une dévotion anti-écuménique. Celui qui m'aura confessé devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux, nous a dit Jésus. Pour nous, ayons donc à cœur de puiser dans les grâces de notre baptême pour répandre autour de nous Jésus. Au travail, avec nos amis, à l'université, dans nos courses et activités. Si le nom de Jésus signifie sauveur, il signifie plus précisément Dieu sauve, Dieu sauveur. Seul, en effet, un être à la fois Dieu et homme pouvait apporter le salut au genre humain. D'une part, pour mériter et agir au nom des hommes, il devait être semblable à nous, de nature humaine. D'autre part, pour satisfaire à la justice divine, il devait être Dieu. Adam, par son péché, et tout pécheur, par le péché mortel, se détourne de Dieu. Le pécheur préfère une jouissance passagère à la loi de Dieu. Il estime concrètement, pratiquement, un bien créé, un plaisir défendu, préférable à Dieu. Il refuse donc à Dieu la dignité de souverain bien. Et c'est là une offense d'une gravité infinie. Les actes finis d'un simple être humain ne sauraient compenser cette faute. Seul Jésus, conçu miraculeusement par l'opération de l'Esprit Saint, possédant à la fois la nature humaine et la nature divine dans l'unité de sa personne, pouvait produire des actes d'une valeur infinie et offrir ainsi à Dieu quelque chose qui lui plaise davantage que tous les péchés du monde ne lui déplaisent. Et comment, bien chers frères, Jésus nous a-t-il rachetés ? Les protestants libéraux ne veulent voir en Jésus qu'un maître et un modèle. En somme, sa doctrine et son exemple suffiraient à nous enseigner les moyens de plaire à Dieu, suffiraient à nous sauver. Mais cela est faux. Que nous dit la révélation, la parole de Dieu dans la bouche de saint Paul ? Le Christ, venant comme prêtre des biens à venir, avec son propre sang, nous a acquis une éternelle rédemption. C'est donc par son sang et comme prêtre que Jésus nous a sauvés. Le Christ, dit encore l'apôtre, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache. C'est donc par son sacrifice et comme victime que Jésus nous a sauvés. Prêtre, victime, sauveur, voilà ce qu'est pour nous Jésus. Une conclusion importante découle de ces grandes vérités. Si le nom de Jésus que nous fêtons aujourd'hui, par la volonté de la Trinité Sainte, a été imposé au Verbe incarné, c'est qu'il dénote un caractère primordial de la physionomie spirituelle de Jésus. Chez les Juifs, le nom avait valeur de définition. Le salut de l'homme est le premier motif de l'incarnation. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre Seigneur est donc essentiellement sauveur, prêtre et victime. Durant tout le cours de son existence terrestre, Jésus a soupiré après l'heure de sa mort, l'appelant son heure. Toute la vie de Jésus apparaît ainsi, avec une profonde unité. Elle est toute ordonnée à l'acte d'amour par lequel, en s'offrant sur la croix, il a été victorieux du péché, du démon et de la mort. Acte d'amour qui plaît à Dieu plus que tous les péchés ne lui déplaisent. Bien chers frères, quelles sont les conséquences pour nous? La vie de Jésus est centrée sur le sacrifice de sa mort pour chacun de nous. Or, comme il l'a affirmé lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est donc un acte d'amour que la vie de Jésus sur la terre. En définitive, notre religion est une religion d'amour. L'amour doit inspirer toute notre vie. Notre amour s'adresse d'abord à Jésus. À lui est due la première place en nos existences. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, nous a-t-il dit. Ajoutons même, qui aime son travail, ses vacances, ses plaisirs, ses enfants, son conjoint et surtout, par-dessus tout, son petit moi profond, plus que Jésus, n'est pas digne de lui. Si nous ne nous détachons pas de notre gros égoïsme, plus ou moins latent, notre vie ne tournera pas autour de Jésus, mais autour de nous-mêmes. Mais, notons-le bien, la connaissance et l'amour de Jésus ne sont pas sensibles. Ce sont la foi et la charité, vertus surnaturelles, donc spirituelles, donc invisibles. On peut s'illusionner, s'imaginer aimer beaucoup Jésus. Comment mesurer notre amour ? C'est l'apôtre Saint Jean, dans sa première épître, qui nous donne le critère. Ce qui nous assure que nous connaissons Jésus, c'est que nous gardons ses commandements. Celui qui dit le connaître et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité ne demeure pas en lui. Mais bien, chers frères, le critère de l'amour, ce sont les œuvres. Et quelles œuvres devons-nous accomplir si ce n'est celle de la charité fraternelle? Que vous vous aimiez les uns les autres, nous dit Jésus. C'est en cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Notre religion chrétienne est une religion d'amour. Et cet amour s'adresse, après Jésus, à nos frères. Jésus n'a donné aucun autre signe de reconnaissance à ses fidèles, si ce n'est la charité mutuelle. Ce que Jésus nous demande, ce ne sont pas des grandes pénitences, c'est de rejoindre l'amour. C'est de sacrifier notre égoïsme pour aimer nos frères. Toutes les autres preuves de notre amour pour Jésus sont frelatées si ce sacrifice manque. Notre vie tourne autour de Jésus et non autour de nous-mêmes. Si pour Jésus, nous savons nous détourner de notre petit moi et nous tourner vers nos frères, aimer Jésus dans nos frères. Alors, excitons-nous à la charité fraternelle. Le temps de Noël y est propice. Prenons quelques exemples. Sommes-nous attentifs à apporter à notre prochain ce qu'il attend de nous, quand ses désirs, du moins, sont légitimes? Ainsi, telle personne, seule, isolée, malade, nous l'avons ignorée quand elle réclamait un sourire ou de se confier. Telle autre personne venue nous parler, nous l'avons à peine saluée. Tel membre de notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, réclamaient présence, aide, et nous avons préféré suivre nos activités, nos projets, garder nos affaires. Évitons-nous la critique ou le dénigrement. La source en est souvent un désir de supériorité caché, l'amour de notre moi en définitive. La formule « vous le garderez pour vous » en est souvent un signe caractéristique. Sommes-nous toujours moralisateurs? Voulons-nous toujours avoir raison? Répandons-nous la joie autour de nous, le bonheur, la paix? Il ne s'agit pas ici de trouver des idées pour les autres. En réfléchissant un peu, chacun trouvera à se réformer soi-même. On n'aime jamais assez son prochain. Pour l'amour de Jésus, prenons donc la résolution de réaliser un peu plus en nos vies l'idéal d'amour mutuel. Que de nous aussi on puisse dire « Voyez comme il s'aime ». Cette formule peut servir de règle à nos actions. Répétons-la souvent en notre cœur, nous demandant si elle s'applique à nous. Le nom de Jésus sera ainsi, non seulement en nos lèvres, mais en notre cœur. Pour conclure, considérons la crèche. Comment ne pas associer les trois noms de Jésus, Marie et Joseph? La chaleur émanée de la douce intimité de la Sainte Famille incite nos cœurs à répandre la bonté autour de nous. Quand ces noms sonnent sur nos lèvres, Jésus, Marie et Joseph se tournent vers nous et du haut du ciel nous regardent avec amour. Alors, rejoignons ce regard de la Sainte Famille qui, à l'instant présent, est posé sur nous. Réclamons leur aide pour nous rendre charitables en répétant encore ces doux noms, Jésus, Marie, Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.